plaisir que je vous retrouve après quelques semaines. Et l'étude de ce matin se situera dans le droit fil de celle donnée justement il y a quelques courtes semaines sur l'Église, l'extension de l'Église. Avec toutefois cette différence que l'étude de ce matin sera beaucoup plus technique que la précédente. Combien étiez-vous là pour l'étude d'il y a à peu près 4 semaines? Levez vos mains. Oui, c'est cela. Bon. Alors, je crois que c'est la majorité, donc ça pourra marcher. Pour ce qui est des autres, peut-être que l'étude a été enregistrée, la précédente. Alors, nous avons parlé donc du corps de Christ la dernière fois, avec cette emphase mise sur la nécessité que chacun, chacune puisse y trouver leur place, leur rôle, afin que réellement ce corps soit en bonne santé et toujours opérationnel. Ce matin, nous parlons plus spécialement de l'extension de l'Église, ceci dans la perspective d'une nouvelle Église à Vincennes, Dieu voulant, en 1996. Alors, à ce titre, il est important de savoir que l'Église a vocation de se multiplier. Et sa multiplication, la plupart du temps, s'opère dans la division. Mais dans une division qui se passe dans l'harmonie, non pas dans la cassure, ni dans les conflits. Il me semble avoir donné ici, il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, le schéma général, j'allais dire, de la formation jusqu'à la multiplication d'une Église sur un fondement néo-testamentaire. Que trouvons-nous dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier, bien entendu, concernant la création de l'Église, puis ensuite sa multiplication? Premièrement, voici le schéma rapidement rappelé. Premièrement, implantation. Il faut implanter une Église. Une fois celle-ci implantée, cette Église doit croître, deuxième point, et croître jusqu'à sa maturation, ou jusqu'à sa maturité. Et une fois majeure, cette Église se multiplie. Elle engendre d'autres églises. Alors je rappelle ce schéma, implantation, croissance, maturation, multiplication. Et quand les choses se déroulent ainsi, alors l'Église manifeste réellement qu'elle est dans les voies du Seigneur et qu'elle est en bonne santé. Nous disions aussi, je ne sais s'il s'agit de la dernière fois ou de fois précédentes, que l'Église entretient avec son époux, le Seigneur, son chef, une relation de couple sur un plan spirituel. Et parce qu'elle entretient une relation de couple et que son époux est le Seigneur, c'est précisément également dans le but de procréer, une procréation spirituelle au niveau de nouvelles églises qui devraient sortir d'elles. On constate le fait que si le quatrième point dans ce schéma de la multiplication n'est pas observé, donc le quatrième point étant celui de la multiplication, les églises finissent par perdre leur teint frais, leur bonne santé spirituelle. Elles entrent dans une stagnation spirituelle, comme arrivées, j'allais dire, à des lauriers vers lesquels elle a visé, pour s'y installer, enfin, et ne pas voir plus loin que son clocher. il n'y a rien de plus dangereux que cela. Ceci, en tout cas, ne se vérifie jamais dans le Nouveau Testament. L'Église doit réellement se multiplier et procréer. Maintenant, de quelle façon l'Église doit-elle envisager une extension, comme c'est votre cas à Vincennes, Dieu voulant, dans moins de 2 ans. À partir de textes comme Matthieu 18, très connus, que nous allons rappeler en les lisant, Matthieu 18, nous lisons à partir du verset 19, nous lisons même, du verset 19 au verset 22e. C'est Jésus qui parle et qui, en fait, lance l'idée de la première cellule qui n'existait pas précédemment. Matthieu 18, 19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il s'agit donc d'envisager, là où le Seigneur conduit, une cellule de ce type, laquelle peut commencer d'exister à partir de deux ou trois. En l'occurrence, à Vincennes, par exemple. Soit dans une famille habitant le secteur, soit dans une salle, si famille il n'y avait pas, par exemple, ou si les appartements, qui sont tellement exigus en région parisienne, ne donnaient pas cette possibilité. Mais c'est à partir de deux ou trois que la promesse de la présence de Christ est promise, est assuré, n'est-ce pas, pour pouvoir aller plus loin. Alors, deux ou trois ne représentent pas l'Église encore, hein, mais un embryon d'Église, et ceci pour plusieurs raisons. Parce qu'une Église établie est une Église qui a des anciens, qui a des diacres, qui a des diaconesses. Une Église est autre chose qu'une cellule, mais la cellule donne, j'allais dire, le coup d'envoi à l'Église potentielle. Et nous constatons tout au long du Nouveau Testament, et surtout dans le livre des Actes des Apôtres, que les Églises ont toujours vu le jour de cette façon-là. Elles sont toutes nées de cette façon-là. D'abord une cellule dans une maison. Alors, par exemple, c'est le Seigneur qui, j'allais dire, toujours, dans ses enseignements, a parlé de la manière de lancer l'Église. Vous savez que du temps du Seigneur sur la terre, l'Église n'existait pas encore. L'Église a commencé d'exister quand ? À la Pentecôte, hein, elle ne pouvait pas exister sans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, lui, a dit comment, n'est-ce pas, l'Église pourrait démarrer. Et en ce faisant, il a lancé l'idée du point de chute d'une nouvelle Église. Il est important que nous réfléchissions jusqu'au bout au point de chute. J'ai dit Luc, c'est Matthieu 10, pardon. Matthieu 10. En ces termes. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. En fait, à la recherche d'un point de chute où commencer une nouvelle église. Je le répète, un point de chute, peut-être une famille, comme un local dans un secteur. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, c'était la consigne donné à l'époque. Aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, vers les brebis perdues, vers les perdues donc. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, etc. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, qu'elle revienne sur vous. En fait, il s'agit là de la façon dont il conviendrait de s'y prendre pour trouver un endroit où démarrer une nouvelle communauté dans une famille, cet endroit que j'ai appelé le point de chute. Il est très important d'être conduit par le Seigneur pour un point de chute à Vincennes. Ceci devrait, bien entendu, relever de l'intercession aux fidèles de l'Église ici, en même temps que d'une recherche sérieuse dans ce sens, de la part des responsables et de l'Église tout entière, désireuse de voir naître cette nouvelle Église là-bas. C'est le premier point. Quelqu'un qui soit digne de recevoir des réunions chez lui, a dit Jésus. Quelqu'un qui soit digne, en fait, de recevoir un embryon de chrétien qui pourrait devenir une Église potentielle. Alors, quelle bénédiction, justement, pour la famille qui s'ouvre dans ce sens. Parce que Jésus dit, là où vous allez entrer, eh bien, dites que votre paix aille sur ceux qui vous reçoivent. C'est déjà quand même quelque chose. Et il y a eu toujours bénédiction sur ces familles qui se sont ouvertes, ces maisons, pour recevoir un travail spirituel d'évangélisation, de prières, de témoignages. Imaginez que la chambre haute a été le premier endroit où, en fait, la vraie cellule a été lancée. Et vous savez que la chambre haute n'était pas une salle de réunion. Elle n'est pas du tout à confondre avec le temple. Mais la chambre haute faisait partie, était une chambre qui faisait partie d'une maison. Et le Seigneur avait donc demandé à Pierre et Jean d'aller prospecter, justement, cette chambre haute auprès d'une personne qu'il, apparemment, avait connue ou qui attendait le royaume de Dieu. Lisons ces textes en Luc 22, ils sont intéressants. Parce que c'est à partir de cette chambre haute, et nous pouvons le dire, c'est dans cette chambre haute que l'Église a vu le jour. Alors, Luc 22. Nous lisons à partir du verset 1er. Pour gagner du temps, plutôt, nous lisons à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, n'est-ce pas, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » En fait, cette Pâque devait correspondre avec l'institution de la Sainte Cène. Tout ceci dans une maison. Ils lui dirent, « Où ?» Voilà une bonne question. Hein. « Où ?» De cette même façon, ici, pour ce qui est de Vincennes, dans moins de 2 ans, Seigneur, où voudrais-tu que nous commencions le travail. Alors, où veux-tu que nous préparions la Pâque ? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître, c'est-à-dire le Seigneur, te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Puis ensuite, la Pâque rappelait, bien entendu, mais surtout l'institution de la Sainte Cène. Et nous savons que c'est dans cette même chambre haute où les disciples s'étaient retrouvés, n'est-ce pas, pour la Pentecôte, que précisément l'Église, pour la première fois, avait vu le jour. C'est important, cela. La première Église avait vu le jour dans une maison. Vous savez, les bâtiments d'Église n'ont commencé d'apparaître que bien après les premières générations d'Église qui avaient été fondées ici et là. Bien entendu qu'il était irrésistible qu'un jour on en arrive aux salles de réunion, aux chapelles. Pourquoi ? Parce que les maisons ne suffisaient plus dans leur dimension pour accueillir tous ceux qui se donnaient au Seigneur. On en a un exemple frappant avec l'église de Jérusalem, laquelle au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, avait réuni plus de 3000 personnes. Il aurait fallu littéralement un stade. Mais à la lecture d'Actes 2, 46 par exemple, nous découvrons que, en fait, la fréquentation du temple n'avait pas été, j'allais dire, arrêtée. Ils étaient tous les jours assidus au temple, où ils précisément se rencontraient, avaient des réunions de prière et surtout entendaient la parole de Dieu. Le temple était un endroit où l'on entendait la parole de Dieu, mais parallèlement aux réunions qu'ils avaient au temple, ils se réunissaient dans les maisons, vous vous souvenez, ils persévéraient dans la fraction du pain dans les maisons, n'est-ce pas ? L'Église donc éclatait en cellules dans certainement énormément de maisons, et se retrouver de temps en temps, j'allais dire, au temple pour ceux qui le pouvaient. Et même, ceci était offert à tous régulièrement, chaque jour, pour entendre la parole de Dieu ensemble. Ce schéma d'église, je dois dire, est difficilement réalisable de nos jours. Étant donné à Paris, par exemple, l'exiguïté des appartements, qui coûtent très cher, d'une part, et puis d'autre part, à la limite même des salles de réunion, des chapelles qui puissent réunir des centaines de personnes ou des milliers, comme ce fut le cas du temps de l'Église primitive. Mais je pense que Dieu aidant, nous pouvons aller dans une direction comme celle que nous avons eue depuis le début, dans laquelle le Seigneur nous a réellement inspiré, conduit, pour que d'autres églises, en plus de celle-ci, puissent voir le jour dans des régions où le témoignage évangélique manquait terriblement. Je crois donc qu'il nous faut aller dans cette direction-là, dans ce sens-là. En tout cas, la semaine dernière, j'étais dans une église, celle de Laval, que j'avais commencé de fréquenter alors qu'elle se réunissaient dans une famille. Mais le Seigneur ayant béni depuis 7-8 ans, je pense, mais le Seigneur ayant béni abondamment cette église de Laval, à l'heure qu'il est, ils ont dû acheter des locaux certainement plus grands que le nôtre ici, en si peu de temps, mais Laval n'étant pas Paris, bien entendu, c'était beaucoup plus facile pour eux que pour nous. Mais à Laval, maintenant, eh bien, ils ont dû faire l'acquisition de locaux. pour pouvoir réunir leur église, l'appartement de la famille n'ayant plus suffi réellement. Ils avaient réuni jusqu'à 40 personnes. Dans une famille, qui peut ici réunir 40 personnes chez lui? Je mets la main pour voir. Ah oui, c'est tous, c'est bien. Non, personne. Ça ne peut se faire. Pour ce qui est de ces points de chute, pour commencer un travail d'évangélisation, nous les retrouvons, après la Pentecôte, dans la chambre haute, constamment à la lecture du livre des Actes des Apôtres. Alors, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 46, nous rappelons ce que nous avons dit tout à l'heure, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, la fraction du pain, la Sainte Cène, se passait dans les maisons. Mais en plus de cela, en acte 10, c'est un ami du nom de Corneille qui offrit sa maison pour des réunions chez lui, après avoir réuni des parents, des amis intimes. Je lis donc acte 10, 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, c'est Pierre, qu'on était allé chercher avec des gens que Corneille lui avait envoyés pour le chercher. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Voilà le vrai boulot. Voilà comment démarre une cellule, une église maison, si vous voulez. Et nous savons la suite. Après que Pierre leur ait dit « Pourquoi m'avez-vous envoyé chercher ?» Alors Corneille lui avait rapporté son histoire, et Pierre avait donc prêché là. Et il y eut une véritable visitation d'en haut. Voilà donc comment une église pourrait démarrer, à la limite si un foyer s'ouvrait de cette façon-là à Vincennes. Nous avons un autre exemple en acte 12-12. Alors ceci en pleine période de persécution. Dans une autre maison, à Jérusalem cette fois, tandis que la maison de Corneille, elle, se situait à Jopé, à Césarée, pardon, et Pierre était à Jopé quand on avait décidé de l'envoyer chercher. Pour ce qui est de acte 12, c'est à Jérusalem, et il y avait une réunion de maison, assez régulière apparemment, où l'on se réunissait chez la maison de Jean, de la mère de Jean, surnommée Marc. Acte 12, 12. Pierre, une fois sorti de prison par la puissance de Dieu, où il s'était situé de façon dangereuse, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'était donc là encore l'exemple d'une famille qui avait ouvert ses portes pour des réunions de prière, certainement d'édification, et disons d'enseignement. Puis la famille qui s'ouvrit ensuite au cours des voyages missionnaires de l'apôtre, celle de Lydie, en acte 16. Lorsque le Seigneur l'eut attiré à lui, verset 14b, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Et nous savons que l'église de Philippe avait vu son tout début dans la maison de Lydie. Et nous pouvons dire que c'est chez elle que vit le jour la première église d'Europe, puisque sa maison se situait en Grèce, en Macédoine. Et puis nous pourrions encore continuer. En acte 17, 1, chez un certain Jason. Acte 17, 7, pardon. Il faudrait que je change mes verres de lunettes. Voilà pourquoi toutes ces hésitations. J'ai beaucoup de peine souvent à lire, mais il est très bon que... Il serait très utile que nous revoyions ces choses. Après avoir prêché dans cette ville et après avoir vraiment vu une moisson en quelques 3 sabbats, j'espère que vous irez aussi vite que cela à Vincennes. Alors, Jason avait ouvert sa maison dans des temps de persécution. Nous ne pouvons pas lire tous ces textes, nous n'avons pas le temps, mais je vous conseille chez vous de les revoir à partir du verset premier. Par ces paroles, ils émurent les ennemis, la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Parce que Jason avait reçu l'équipe apostolique chez lui afin de les entendre dans sa maison. Et aussi de leur permettre d'y fonder un embryon d'église. Et nous savons ensuite que c'est à partir de là que l'église de Thessalonique a vu le jour, auquel l'apôtre écrivit 2 lettres. Puis ensuite, l'église de Corinthe, acte 18, qui prit racine chez Aquilas et Priscille. L'église, d'autres églises, mais il me tarde d'en arriver à l'étude de la cellule. Tout à l'heure, je me posais la question, dois-je aller dans ce sens, étant donné le caractère assez technique de l'étude, ou dois-je laisser cette étude pour un mardi, mais vous êtes toujours moins nombreux. Tandis que là, vous n'aurez plus aucune excuse. Ayant entendu vraiment, j'allais dire, parler de cette vision de la multiplication de l'Église au niveau de cellules devant devenir de nouvelles communautés. Mais je vous donne d'autres versets, Actes 18, 26. Toujours avec Aquilas et Priscille, il est question d'une maison qui s'ouvre, j'allais dire, pour la naissance d'une communauté. Acte 20, où il nous a dit que l'équipe apostolique prêchait publiquement et qu'elle prêchait aussi dans les maisons. Ceci pour donner un fondement biblique à cette vision que le Seigneur nous met à cœur ici d'envisager une nouvelle communauté. Maintenant, en dehors de ces foyers, il serait quand même important de dire un mot sur ces foyers qui recevaient les premières églises. C'est de cette façon-là que réellement l'Église a gagné un terrain, beaucoup de terrain en si peu de temps. La famille, pourquoi la famille? Eh bien parce que la famille est à la base de la société et que la famille a un contact, j'allais dire, pratiquement naturelle avec d'autres familles autour d'elle. Et c'est le biais par lequel le Seigneur a agi à l'aube de l'Église pour justement étendre le royaume de Dieu de façon tellement rapide. Or aujourd'hui, les familles ne sont plus engagées comme c'était le cas précédemment. Ceci pour plusieurs raisons, que peut-être nous n'avons pas le temps de passer en revue. Mais n'oublions jamais que les familles chrétiennes sont des points de mire, qu'elles sont désirées par le Seigneur pour faire avancer son règne, et qu'elles ont été implantées ici et là par le Seigneur, non pas par hasard, mais pour lui rendre un témoignage très puissant. Maintenant, au niveau de ces familles à partir desquelles des églises se sont faites, je vous invite à l'étude suivante. Vous constaterez qu'il y avait toutes les fois des gens pieux dans ces familles, craignant Dieu. Sinon, ça n'est pas la peine d'ouvrir votre maison. D'ailleurs, ce fut le cas à Jérusalem déjà. Hein. Si Jérusalem connut une telle visitation d'en haut au jour de la Pentecôte, c'est parce qu'il y avait là des gens pieux, craignant Dieu. Et puis, vous faites une étude exhaustive de cette affaire au niveau des familles qui s'ouvraient, des gens qui étaient les premiers contactés, toujours des gens pieux et qui craignaient Dieu. C'est important. Et pourquoi avons-nous tellement de peine en France pour voir l'Évangile avancer ? Parce que les Français ne craignent plus Dieu. Et on a presque plus de gens pieux en France. Mais dès que nous rencontrons quelqu'un de pieux et qui craint Dieu, même s'il n'est pas au Seigneur, alors réellement, le Seigneur le touche beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a tout rejeté, lui a tourné le dos et est devenu à la limite une sorte d'ennemi de Dieu. Tenez, prenons le cas, par exemple, des Thessaloniciens. Déjà, de Lydie. De Lydie, en acte 16, n'est-ce pas ? Alors, nous lisons en acte 13, le jour du, en acte 16, verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, était une femme craignant Dieu. Où sont-ils ces gens-là, hein ? Généralement, quand on les rencontre, ils ont été préparés par le Seigneur pour recevoir sa parole. Mais cette Lydie, qui devait être une païenne, mais prosélyte, c'est-à-dire devenue, en fait, croyante dans le judaïsme, avait été préparée par, je dirais, l'Ancien Testament à cette crainte de Dieu et à la réception du message de l'Évangile. Si nous tournons juste une page ou deux, nous nous retrouvons en acte 17. Je n'ai pas voulu lire ces choses tout à l'heure, mais voilà que nous y voyons obligés. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Ceci laisse entendre que à Amphipolis, et Apollonie, il n'y avait pas de synagogue. Parce que l'apôtre Paul visait surtout les synagogues. Et nous allons en dire un mot tout à l'heure pourquoi. Où les Juifs avaient une synagogue, donc Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu. C'est fou, hein ? Craignant Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité, etc. Mais des Juifs jaloux qui ne craignaient pas Dieu, eux, évidemment, qui n'avaient pour horizon que leur tradition, les avaient très sérieusement pris à partie. Mais faites une étude, vous verrez que c'est là où réellement des hommes et des femmes craignent Dieu, qu'il y a une action du Saint-Esprit en réveil. Et j'aime à l'enseigner, surtout dans les instituts publics et les facs de théologie, pour que nous sachions que, du temps de l'Église primitive, c'est de cette façon-là que la conquête s'était faite. Pourquoi les synagogues étaient-elles visées ? Ben parce que l'apôtre avait un lien avec ces juifs. D'abord, il était juif comme ces juifs, qu'il visitait d'une part, et ensuite, le Nouveau Testament n'existant pas. C'est à partir de textes de l'Ancien Testament qu'il voulait faire la preuve que celui qui était venu était réellement le Christ. Or, tous les juifs en diaspora, c'est-à-dire en dispersion, ici, dans les Actes des Apôtres, nous sommes très souvent en présence, justement, de la synagogue de la diaspora. L'apôtre Paul voulait faire la preuve à tous ces juifs qui attendaient le Messie que réellement celui qui était venu était le Christ. Alors, il avait, lui, en commun, l'équipe apostolique, avec tous ces juifs, déjà l'Ancien Testament, les coutumes, les traditions, tellement de choses ensemble qui pouvait jouer dans le sens, j'allais dire, de la conversion des Juifs, ce qui n'était pas couramment le cas, mais qui pouvait quand même aider dans ce sens. Alors, pour ce qui nous concerne, après avoir vu rapidement le problème des foyers à rechercher ou établir une église, ces synagogues seraient le symbole de quoi ? C'est-à-dire que quand le Seigneur m'a donné de créer ici cette Église à nation dans sa grâce, en faisant du colportage un jour, en tapant aux portes, il y a donc 26 ans comme ça, nous étions retrouvés chez des amis qui avaient été réellement déçus de leur Église d'origine. Déçus de leur autorité ecclésiale dans leur église d'origine, et qui nous avaient reçus à bras ouverts pour nous demander ce que nous prêchions, ce que nous apportions, etc. Alors certains ici les ont connus, il s'agit de monsieur et madame Picot, vous avez connu ? Oui. Qui, alors, en marge de toute église, se réunissaient chez eux avec d'autres amis. En attendant quoi ? Ils ne savaient pas. Et après nous avoir étudiés, dans le sens de notre doctrine, de notre communion fraternelle, ils avaient d'un commun accord décidé de se joindre à nous. Et c'est comme cela qu'ils n'habitaient pas tellement loin d'ici. Et après cela, ils s'étaient réjouis qu'une église commençait de voir le jour, l'église de la nation, dans ce quartier de la ville de Paris. Alors, ils avaient décidé de se joindre à nous, ce qui nous avait accordé, disons, de grossir de façon très sensible. Et M. Picot, qui était un prédicateur laïque, avait eu plusieurs langues. Combien avez-vous connu ici, M. et Mme Picot ? Oui, plusieurs, hein ? Les vétérans, j'allais dire. Oh, excuse-moi, là. Non, les anciens, disons. Voilà ce qui pourrait ressembler à une synagogue, si vous voulez. Il n'y a rien de péjoratif dans ce terme. Les synagogues avaient commencé d'exister non seulement sur le sol palestinien, et même déjà, il y a trace de rassemblement. Synagogue signifie en grec, pas en hébreu. Lieu de réunion. Lorsqu'ils avaient été déportés en Babylonie, les Juifs se retrouver dans des lieux de réunion. C'est à partir de là que on a commencé d'appeler synagogue tout ce qui pouvait remplacer, en fait, le culte au temple. Ils n'avaient plus eu de temple. Mais de retour sur le sol de leurs ancêtres, les Juifs avaient continué de se réunir dans ces lieux de réunion qui signifient en grec synagogue. Mais avec cette particularité que dans une synagogue, après la déportation sur le sol palestinien, on n'y opérait aucun sacrifice. Ces lieux de réunion existaient, tandis qu'au temple, oui, toutes les fois, n'est-ce pas ? dans ces synagogues, il n'y avait jamais de sacrifice. C'est toute la différence. Par contre, on pouvait y entendre la loi, essentiellement, la Torah, la parole de Dieu. Je crois que sur cette base-là aussi, nous pouvons, j'allais dire, fonder l'existence de petites communautés à multiplier à partir de ces synagogues destinées à remplacer, à prendre la place, à se substituer au temple qui pouvait lui alors réunir tellement, tellement de monde. La cellule, dans quel but ? Ses avantages, ses inconvénients. Il y a toujours des inconvénients aux avantages. C'est un peu le revers de la médaille. Mais vous avez remarqué que, par exemple, en Matthieu 18, lorsque le Seigneur enseigna la première cellule, aussitôt après, il enseigna quoi ? Je vous le laisse deviner. Nous avons lu donc, Matthieu 18, les versets 19 et 20. De quoi est-il question au verset 21 ? Pardon ? L'exercice du pardon. Mes amis, il n'est pas tellement évident de se retrouver chez quelqu'un, un petit nombre, où très vite on apprend à se connaître avec nos très bons caractères, hein, avec nos tendances particulières. Vous savez, je me souviendrai toujours, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, quand nous avons commencé ici, nous étions 5, de l'autre côté de l'avenue, tout près du printemps, au 33. Ne pensez pas que les problèmes dans un embryon d'église commencent à jaillir à partir de 50. Nous étions 5 et nous étions issus d'horizons différents, au plan ecclésial, au plan des églises. Et nous avions par exemple ceux qui nous avaient reçus chez eux. C'était pas la chambre haute, mais la chambre basse. Nous étions au rez-de-chaussée, eux habitaient au-dessus, Monsieur Pélissier. Et son épouse, Madame Pélissier, vivant toujours, Monsieur Pélissier étant auprès du Seigneur. Ils étaient anciennement à l'armée du salut. Ils avaient démissionné pour des raisons personnelles. Et puis, s'étaient ajoutés aussi d'autres amis, issus des Gobelins, essentiellement, mais aussi d'ailleurs, d'églises au loin, comme d'église auprès. Et en se faisant, bien entendu, chacun avait eu sa façon de voir les choses pour commencer une nouvelle communauté. Je prends le cas du sergent Pélissier. Dans la première salle que nous avions fréquentée de l'autre côté, il y avait une chaire, une estrade, et juste à côté, le drapeau de l'armée du salut avec feu et sang. Alors j'avais dit au sergent, à l'ex-sergent, on n'est pas l'armée du salut, on ne l'est plus. J'ai rien contre l'armée du salut, mais là, il nous faudrait peut-être envisager d'enlever ce drapeau. Surtout que ceux qui viendront pourraient nous confondre avec l'armée du salut. Alors le sergent m'avait répondu, écoutez, je ne suis plus dans l'armée du soleil avec mon épouse, mais ce drapeau restera là. Allez lutter avec ça, vous. Alors, ça avait été chez moi un sujet de prière. Et au niveau de la toute petite équipe que nous formions. Quand un jour, plusieurs mois après, nous nous étions présentés pour une réunion, tout à coup, le drapeau était plus là. Et c'est le sergent Pélissier qui l'avait enlevé. Il faut compter sur le Seigneur pour qu'il arrange les choses. Mais si j'avais résisté au sergent Pélissier, l'ex-sergent Pélissier, mais que de problèmes, Déjà, avant même de démarrer, nous aurions rencontré. Vous savez, nous ne sommes pas de petits saints, même une fois chrétiens. Hein. Voilà pourquoi, en parlant de la cellule, immédiatement après, le Seigneur parle de pardon. Parce qu'à nous frotter les uns les autres, ça fait des étincelles. Et vous saviez ce qui se passait encore au niveau de ces cinq, là? Je le répète si certains ne l'avaient pas entendu. Lorsque deux d'entre ces cinq se retrouvaient, de qui parlait-il? Du troisième. Fou, hein? Et pas en bien. La plupart du temps en mal, en disant, tu te rends compte, ce qu'il a dit la dernière fois, on peut pas le suivre. Il faut qu'on lui résiste. Bon. Et quand nous étions à trois, on parlait du quatrième. Quand on se retrouvait à quatre, irrésistiblement du cinquième. Et quand nous nous retrouvions à cinq, il se passait une sorte de miracle. Parce que nous étions tous là, plus personne n'osait parler. Oui. Un peu les hypocrites que nous étions. Mais c'est comme cela que souvent démarrent les nouvelles églises. Hein. Voilà pourquoi il est immédiatement question du ministère de la miséricorde. Quand on veut lancer une nouvelle communauté dans une famille ou dans une salle destinée à recevoir les premiers. Vous savez, quand nous sommes trop nombreux, il y a réellement difficulté à mettre en pratique des ministères, des dons spirituels, on se marche sur les pieds, on s'étouffe les uns les autres. Tandis que lorsqu'on est un petit nombre, au début, quand le Seigneur m'avait donné de lancer nation, ben c'est avec les premiers, ici même, de l'autre côté, puis ici même, avec les premiers que nous avons tenté de former équipe pour les voir grandir. Et la plupart d'entre eux, maintenant, sont serviteurs de Dieu, prédicateurs de l'Évangile, pasteurs, etc. Nous étions peu nombreux et l'occasion leur avait été réellement offerte de manifester le charisme que Dieu leur avait confié. Ceci est très important. Je le répète, dans une grande assemblée, il est tellement difficile d'aller dans ce sens pour différentes raisons. Et puis, dans un petit groupe, il y a possibilité de partage, de communion, beaucoup plus facilement que dans un groupe important. Et on apprend réellement la communion fraternelle dans un petit groupe. Maintenant, la maison qui reçoit une cellule chez elle pour tenter de commencer une nouvelle église n'est pas propriétaire de la cellule. Automatiquement, c'est important à dire. La cellule reste sous, bien que se situant dans une maison particulière, reste, j'allais dire, sous l'autorité de l'Église qui, j'allais dire, la fait naître et la lance dans le but d'y établir réellement un témoignage. Ceci est important parce que des amis qui ont cru que leur Église leur appartenait ont agi de telle façon qu'après coup, il y eut des problèmes tout à fait délicats à résoudre, persuadés qu'ils avaient été, ces propriétaires de maisons-là, que l'Église, ayant vu le jour chez eux, leur appartenait. Non, absolument pas. L'autorité reste celle de l'Église mère. Et cette Église mère, évidemment, peut envisager de déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs frères dans le but de gérer cette cellule pour son implantation et sa croissance. Ceci est très important. Maintenant, il a pu se faire dans le Nouveau Testament que des églises aient vu le jour chez des chrétiens qui avaient été d'une certaine dimension spirituelle. Je prends Philémon à Colosse. Alors, une église se réunissait dans sa maison. Alors, je pense qu'avec l'accord de l'apôtre Paul, Philémon eh bien, était devenu en fait le responsable de la communauté avec d'autres, archip, avec d'autres pour sa bonne marche. Mais tout ceci devant se faire avec, j'allais dire, l'assentiment de l'autorité établie de Dieu. En Colosse est une église qui est sortie de Philippe. Non pas que Philippe et l'église de Philippe ait bâti l'église de Colosse, certainement pas, mais il y en eut un qui, à partir de Philippe, est soutenu par Philippe, un certain Épaphrodite, lui avait été délégué jusqu'à Colosse pour lancer l'église, peut-être chez Philémon. Enfin, la plupart du temps, nos commentateurs s'accordent pour dire qu'il a été, lui, à l'origine de l'église de Colosse. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a bâti l'église de Colosse. Il a bâti celle de Philippe, mais pas celle de Colosse. Mais il reste que Colosse, et même celle de Laodicée, avait collé à l'église de Philippe, puisque c'est en écrivant à l'église de Philippe que l'apôtre Paul avait recommandé de saluer ces deux autres églises qui avaient été fondées par l'un de ses équipiers, très certainement. Alors retenons cela. Et puis, l'idée d'une cellule, ce sera ma conclusion, parce que le temps tourne. Voilà pourquoi j'ai hésité à vous donner cette étude de ce matin. Lors d'un culte, nous aurions pu avoir des dessins ici, mais c'eût été plus difficile. Mais l'existence d'une cellule n'exclut pas un leadership. C'est-à-dire quelqu'un qui, de par le Seigneur et de par l'autorité établie de Dieu dans l'Église mère, j'allais dire, supervise les situations, les dirige, soit seul, soit au niveau d'un collège de responsables, hommes et même femmes, dans le but, j'allais dire, qu'un ministère s'exerce vis-à-vis des femmes et des enfants présents au sein de cette famille et de la communauté qui démarre. Pourquoi est-ce que j'insiste ? Par exemple, au tout départ d'Ici à Nation, s'il devait y avoir un chef, ce fut moi-même, par la force des choses. Parce que tous ceux qui m'entouraient au départ étaient de tout jeunes convertis. Gilbert Prel, lui, était encore dans les langes. Enfin, excusez de parler ainsi. Et Claude Grandjean, lui, alors, en était au balbutiement. Il venait à peine de rencontrer le Seigneur. À Strasbourg, quand il vint habiter ici, tout près, là. Je ne pouvais pas, assurément, partager, j'allais dire, vraiment des responsabilités importantes avec ces personnes avant de les avoir vus grandir, se fonder solidement sur les Saintes Écritures. Ce fut le cas très souvent de personnes aussi dans le Nouveau Testament. Mais aussitôt que cela fut possible, j'ai souhaité partager mes responsabilités avec ceux qui grandissaient dans le Seigneur, qui se fortifiaient. Et c'est de cette façon-là que justement Gilbert s'est formé, que Jean s'est formé, que Claude s'est formé, que Joseph Alexer s'est formé, et que d'autres encore ont pris cette dimension que vous leur connaissez, et qui sont venus des hommes et des femmes de Dieu. Pourquoi l'équipe, la cellule, n'exclut pas un leadership ? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et non pas un Dieu de désordre, d'une part. Et il faut que celui qui soit là, à la tête d'une cellule, soit réellement un homme de Dieu, connaissant la parole de Dieu, soumis à Dieu, en même temps que soumis à l'autorité de l'Église mère qui lui a délégué ce pouvoir. Nous voyons que dans la Sainte Trinité, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont absolument égaux, et qu'ils sont ensemble Dieu dans toute la dimension du terme, il existe quand même un chef. C'est qui ? C'est le Père. c'est le Père. Et le Fils a accepté de se soumettre au Père. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à son Père, mais il s'est humilié pour se rendre obéissant à son Père. C'est un exemple formidable, j'allais dire, d'une vie d'équipe divine qui réellement a compris le schéma de la cellule. Il y a là une cellule divine, deux ou trois. Et le Saint-Esprit est soumis au Fils. Puisque Jésus parle du Saint-Esprit comme de celui auquel il confiera beaucoup pour nous. C'est vrai. Et puis, le Saint-Esprit nous a été envoyé par lui. Et tant de choses à... Bon, telle n'est pas mon étude de ce matin, mais sur le modèle de la Trinité. Que de choses à apprendre. Et notamment, justement, à apprendre pour ce qui est de la cellule devant devenir une église, où que ce soit ici-bas, et notamment dans la perspective d'une nouvelle église à Vincennes. Il nous faut donc prier de toutes nos forces à cet égard, afin que Dieu réalise ses desseins, tous ses desseins, mais rien que ses desseins. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu nous bénisse dans la suite de ce culte. Amen. Amen.